à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30, temps universel, du vendredi 3 janvier 2020. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Tension au Moyen-Orient après l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. Téhéran promet de le venger. Washington affirme avoir sauvé la vie de plusieurs Américains.
Ce que l'on craint, c'est que ces menaces proférées par l'Iran en faisant de chaque diplomate américain une cible potentielle puissent avoir un écho.
Ici aux États-Unis, le Sénat reprend du service et les Républicains pourraient dévoiler leur stratégie sur la mise en accusation du président Donald Trump. En République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo demande au gouvernement de mener une démarche diplomatique en direction du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. L'aéroport de Tripoli fermé jusqu'à nouvel ordre après des tirs de roquettes dans le secteur. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. En République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo demande au gouvernement de mener une démarche diplomatique en direction du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi pour qu'ils arrêtent de déverser leur population dans l'est du pays. Pour lui, cela alimente la confusion autour des populations rwandophones congolaises, l'une des causes du conflit au Congo. Le point avec Eddy Isango.
Le nouveau cardinal s'est adressé aux journalistes à Kinshasa après une tournée de 3 jours dans la région de Beni. Monseigneur Fridolin Ambongo a expliqué les problèmes des rwandophones de la RDC.
Le travail pour les ou de rwandophones, de congolais d'origine rwandaise, ils sont là depuis des années, personne ne peut contester leur nationalité congolaise. Ce qui fait problème, c'est le déversement des autres qui arrivent et on essaie de les faire passer comme des Mongolais. Et le cas le plus criant, ce sont les immigrés rwandais qui ont été chassés de la Tanzanie il y a quelques années. Et on a fini par les déverser au Congo. C'est tout ça qui crée un sentiment de frustration, de colère de l'autre côté et confirme qu'il y a un plan de balkanisation de l'IR. Cette infiltration, ça concerne aussi notre armée.
Le cardinal Ambongo a insisté pour que les autorités congolaises résolvent les problèmes des chefs coutumiers remplacés par ceux qui n'en ont pas les droits. À la mission onusienne et à l'armée congolaise, il a rappelé qu'elles doivent bien remplir leur mission de protéger les civils pour se faire accepter.
En Guinée-Bissau, le PAIGC a introduit un recours devant la Cour suprême pour contester la défaite de son candidat, Domingos Chimeus Pereira, à l'élection présidentielle. Les juges se réuniront lundi pour commencer à analyser les recours du PAIGC. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert compte le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Le candidat du parti d'opposition MADEM et ancien Premier ministre Oumarou Sissoko Mbalo a remporté le second tour de la présidentielle avec 53,55% des suffrages. Le président sud-soudanais Salva Kiir a gracié 30 prisonniers, dont le défenseur des droits de l'homme, Peter Biya Ajak, condamné en juin à 2 ans de prison pour espionnage. Son épouse Nyaton Hotmaye a fait part de sa satisfaction à travers un tweet. « Mon mari vient d'être libéré par l'intermédiaire d'un décret présidentiel », a-t-elle écrit. Un porte-parole de la prison de Juba, où était détenu M. Biar, a toutefois précisé que les prisonniers n'avaient pas encore quitté leur cellule. Peter Biya Ajak avait été arrêté en juillet 2018, puis détenu pendant 8 mois par les services de renseignement. Le Parlement éthiopien a modifié sa législation antiterroriste dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme. Toutefois, la nouvelle version a suscité l'inquiétude de membres de l'opposition et d'Amnesty International. Cette nouvelle loi, adoptée hier, ne contient plus certaines dispositions qui avaient permis l'arrestation de dizaines de journalistes et hommes politiques au fil des années. La notion vague d'encouragement au terrorisme est ainsi remplacée par celle d'incitation au terrorisme, mais il criminalise aussi le concept très vague d'intimidation en vue de commettre un acte terroriste et autorise les parlementaires à identifier et à interdire des organisations terroristes. En Libye, les vols ont été suspendus à l'aéroport de Mitiga à Tripoli en raison de tirs de roquettes et de bombardements, une fermeture qui intervient au lendemain du vote du Parlement turc permettant un déploiement de troupes dans le pays. Nathalie Barch.
Les forces basées dans l'est du pays, dirigées par Khalifa Haftar, mènent une campagne depuis avril pour prendre Tripoli, contrôlée par les forces alignées avec le gouvernement d'union nationale. Les forces de Haftar, qui ont balayé le sud de la Libye début 2019, ont déclaré ce vendredi avoir effectué des frappes aériennes dans plusieurs endroits, y compris au sud de la ville de Sirte, qui se trouve sur la ligne de démarcation entre les factions belligérantes. L'offensive à Tripoli s'est rapidement arrêtée dans la périphérie de la capitale. Cette avancée a conduit à une implication internationale accrue dans le conflit, la Turquie soutenant le GNA et Haftar recevant l'appui des Émirats arabes unis, de l'Égypte et de la Jordanie. Selon des diplomates et analystes, des sous-traitants militaires russes ont également été déployés auprès de l'armée nationale libyenne de Haftar pendant plusieurs mois.
Une foule importante a défilé à Alger ce vendredi au lendemain de la formation du gouvernement du nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune et d'une vague de libération surprise de contestataires détenus. La mobilisation est, selon un journaliste sur place, plus importante que les deux vendredis précédents, lors desquels elle avait semblé marquer le pas après l'entrée en fonction du nouveau président Abdelmadjid Tebboune.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le général Qassem Soleimani, le chef de la force iranienne Al-Quds, a été tué dans une attaque américaine aux missiles tôt ce matin à l'aéroport international de Bagdad. Le raid américain sans précédent ouvre une période d'incertitude pour les États-Unis et leurs alliés dans la région. Plus de précisions avec Arzuma Kompaoré.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est engagé à venger la mort du général Soleimani et a décrété un deuil national de 3 jours dans son pays. Le haut dignitaire religieux chiite irakien, le grand ayatollah Ali Sistani, a aussitôt condamné l'attaque. Quelques heures après la mort du commandant iranien, des responsables, des protestations ont éclaté dans la région avec des centaines de personnes au Cachemire indien à majorité musulmane, des dizaines de milliers de personnes à Téhéran et d'autres villes iraniennes ou encore dans la ville d'Islamabad au Pakistan. L'ambassade américaine à Bagdad a exhorté les citoyens américains à quitter l'Irak immédiatement. Trump a tweeté vendredi que Soleimani aurait dû être éliminé il y a de nombreuses années. Il poursuit dans son tweet que Soleimani a tué ou gravement blessé des milliers d'Américains sur une longue période de temps et complotait pour en tuer beaucoup plus, mais s'est fait prendre. Alors que le président du Conseil européen Charles Michel appelle à la fin du cycle de violence en Irak et que l'ambassadeur français aux Nations Unies appelle à la désescalade, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine exhortait toutes les parties à respecter les principes de la charte de l'ONU et les normes de base des relations internationales. Quant au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il a félicité le président américain Donald Trump d'avoir agi rapidement, avec force et de manière décisive. Les États-Unis ont actuellement 5 200 soldats déployés en Irak, officiellement pour aider à former leur armée et s'assurer que le groupe État islamique ne réapparaîtra pas comme une force.
Voilà, donc, et en termes de réaction toujours, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a indiqué que le monde ne peut pas se permettre une nouvelle guerre dans le Golfe. Il a aussi appelé les dirigeants à faire preuve de maximum de retenue. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani risque de sérieusement aggraver la situation au Proche-Orient. Il a eu une conversation téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. La France appelle à la prudence ses ressortissants se trouvant dans plusieurs pays du Proche-Orient, notamment en Irak, à la suite des récents événements dans ce pays et d'une montée des tensions dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont encore manifesté ce vendredi en Inde contre une loi sur la citoyenneté. Dans plusieurs villes du pays, les manifestants scandaient des slogans hostiles au gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. La contestation ébranle l'Inde depuis l'adoption le 11 décembre de cette loi qui facilite l'obtention de la nationalité indienne pour les réfugiés d'Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh, sauf ceux de confession musulmane. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe à l'actualité économique présentée ce soir par Nanik Talani.
La Banque du Portugal évalue l'aptitude d'Isabel dos Santos en tant qu'actionnaire des institutions portugaises après qu'un tribunal angolais a ordonné le gel de ses avoirs en Angola plus tôt cette semaine. Isabel dos Santos détient des parts importantes dans plusieurs grandes sociétés portugaises, dont la Banque Eurobic, où elle détient 42,5%, la Société de télécommunications NOS et la Société d'ingénierie EFASEC. Elle est aussi partie prenante du groupe Galp Energia, dont les principaux actionnaires sont la Société pétrolière nationale angolaise Sonangol et Exxem Energy, une société dont dos Santos, son épouse syndicat de Colo et leur banquier Da Silva sont les bénéficiaires. Le prix du cacao a augmenté cette semaine. À Londres, la tonne de cacao pour livraison en mars valait 1838 livres sterling contre 1817 livres sterling le vendredi précédent. À New York, la tonne pour livraison en mars valait 2 528 $ contre 2 497 $ 7 jours plus tôt. Selon Jacques Scoville, analyste pour Price Futures Group, les fortes pluies en Afrique de l'Ouest, où est produit l'essentiel du cacao, peuvent gêner la récolte actuelle mais sont positives pour la prochaine. Pour terminer, l'or a bondi tandis que le cuivre a baissé aujourd'hui. À Londres, l'once d'or valait 1546,22 $ ce vendredi contre 1510,56 $ 7 jours plus tôt.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Bonsoir Abdou.
On commence par le dernier match de la 21e journée du championnat d'Angleterre. Rien n'arrête Liverpool.
Tout à fait. Les Reds se sont facilement imposés face à Sheffield United 2-0 jeudi soir. Ils maintiennent leur avance de 13 points sur Leicester qui s'est imposé mercredi à Newcastle 3-0 et de 14 points sur Manchester City victorieux d'Everton 2-1. Cela fait maintenant plus d'un an que les champions d'Europe en titre n'ont pas perdu un match de Premier League. Leur victoire obtenue contre Sheffield United, la 19e en 20 matchs de championnat cette saison.
Dakar 2020, des innovations pour favoriser l'équité.
L'édition 2020 du Rallye Dakar qui démarre dimanche et se déroule pour la première fois en Arabie Saoudite va voir l'introduction de plusieurs nouveautés sur le plan sportif avec l'idée de favoriser l'équité entre concurrents. Grande nouveauté de cette 42e édition sur 6 étapes, le roadbook sera distribué aux concurrents le matin même de la spéciale et non plus la veille au soir. Objectif, niveler les différences de préparation entre concurrents et redonner plus de place à la navigation en temps réel. Pour toutes les catégories de véhicules, la course sera stoppée pendant 15 minutes sur les spéciales de plus de 300 km afin de vérifier les appareils de sécurité, les appareils GPS, donner à boire et à manger aux concurrents. Sur 2 étapes, les motos et les quads n'auront droit qu'à 10 minutes de mécanique à l'arrivée du bivouac avant de repartir pour l'étape du lendemain. L'idée est de faire baisser la vitesse des motards en les forçant à gérer l'endurance et l'économie de leurs machines, notamment l'usure des pneus.
Enfin, les résultats du championnat nord-américain de basketball après les matchs disputés jeudi.
La Clippers a battu Detroit 126-112. Dallas a gagné contre Brooklyn 123-111. San Antonio a été mené devant Oklahoma City 103-109. Miami a battu Toronto 84-76. Sacramento a gagné contre Memphis 128-123. Chicago a échoué devant Utah par 98-102. Minnesota a battu Golden State 99-84. Cleveland a été mené par Charlotte 106-109. Enfin, Indiana a perdu face à Denver 116-124. Côté classement, Milwaukee est en tête de la conférence Est, tandis que la Lakers reste leader au niveau de la conférence Ouest. Et c'est tout pour les sports. Abdou.
Merci Eric.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Diat, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo affirme que le général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain à Bagdad, préparait une action d'envergure menaçant des centaines de vies américaines. Soleimani était à la tête de la force Al-Quds, chargée des opérations extérieures des gardiens de la révolution. Pour une analyse sur ce semblant de guerre ouverte entre Téhéran et Washington, Nathalie Barge a joint à Paris Georges Malbruno, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient au Figaro.
On était rentré dans une espèce d'engrenage de la violence avec une attaque, une tentative de prise d'assaut de l'ambassade américaine en Irak. Et c'est probablement ce qui a effrayé Donald Trump, qui a probablement vu renaître le scénario traumatisant de la prise d'assaut de l'ambassade américaine en Iran en 1979.
Quel rôle joue exactement l'Iran en Irak? Autrement dit, quelle est l'envergure des groupes chiites actifs et influents dans le pays?
L'Iran et Qassem Soleimani, qui était en quelque sorte le proconsul iranien en Irak, dispose d'un certain nombre, 4 ou 5 milices constituées d'Irakiens, mais qui sont commandées justement par Qassem Soleimani ou par son numéro 2 qui était irakien, Abu Mahdi al-Mohandes. Et vous avez le Kataeb Hezbollah, vous avez un autre groupe qui s'appelle Asaeb el-Haq, vous avez un troisième groupe Khorasan, et donc vous avez comme ça peut-être 30-40 000 hommes qui sont des Irakiens, mais qui obéissent aux ordres de Téhéran. En septembre, j'ai vu le chef d'un de ces groupes, Abou Ala al-Walahi, qui est le chef de ce qu'on appelle Kataeb Shuhada, qui m'a dit très clairement, je suis irakien, mais mon chef, c'est Ali Khamenei, le guide suprême iranien, j'obéis au Pasdaran, j'obéis à Téhéran. C'est comme ça que l'Iran dispose d'une capacité de nuisance en Irak, mais aussi dans d'autres pays, au Liban, avec le Hezbollah.
Téhéran a promis de riposter le Hezbollah au Liban également. Y a-t-il un risque de riposte iranienne de grande envergure?
Alors, je dirais que l'Iran a l'habitude de réagir à froid et de manière asymétrique. Et Téhéran a d'ailleurs fait savoir qu'il réagirait au bon moment et au bon endroit. Donc je ne pense pas qu'on doit s'attendre dans les jours qui viennent à une riposte iranienne directe contre les États-Unis. Je pense que la riposte première devrait intervenir très rapidement, mais ce sera une riposte plutôt politique en Irak, où le Parlement à Bagdad doit se réunir demain pour étudier un projet de loi qui vise à expulser les forces étrangères d'Irak, donc en particulier américaines. Donc ce projet de loi avait été rejeté in extremis au printemps dernier. Cette fois-ci, il n'est pas sûr que ce projet de loi soit de nouveau rejeté. Il peut y avoir, en attendant aussi, des tirs de roquettes de la part des milices irakiennes pro-iraniennes contre des bases en Irak où sont stationnés des soldats américains. Il peut y avoir aussi des tirs contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite, contre les alliés des Américains dans le Golfe. Mais je crois que l'Iran n'a jamais eu l'habitude de riposter à chaud et sans calibrer sa réponse. On peut aussi évoquer le fait qu'une autre victime collatérale de cet accès de violence, c'est les espoirs qu'on pouvait avoir de négociations sur le dossier nucléaire iranien entre Donald Trump et l'Iran. Ali Khamenei, le guide suprême iranien, n'acceptera pas qu'on aille négocier avec celui qui a ordonné la mort de Qassem Soleimani et qui était celui qui justement a permis à l'Iran d'être puissante hors de ses frontières.
C'était Georges Malbruno, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient au Figaro. Et justement, en Afrique, cette actualité au Moyen-Orient est très suivie. Timothée Donangmaï a recueilli tout à l'heure l'analyse de Bakary Somb, le directeur de Timbuktu Institute basé à Dakar.
Ce que l'on craint, c'est que ces menaces proférées par l'Iran en faisant de chaque diplomate américain une cible potentielle puissent avoir un écho. Pour cela, les risques demeurent pour le moment faibles au regard de la faiblesse de la présence de communautés chiites endogènes en dehors des grandes communautés syro-libanaises, assez présentes dans les différents pays et qui ont un pouvoir économique certain et qui sont liées au Hezbollah. Au demeurant, la politique américaine depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a suscité pas mal d'interrogations, notamment lors des premières mesures qui ont été prises pour empêcher certains pays, certains ressortissants d'entre eux, c'est-à-dire notamment des populations d'origine musulmane. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question très importante à surveiller de très près, d'autant plus qu'il y a l'émergence de jeunes communautés chiites et la présence universitaire iranienne aujourd'hui dans les grandes villes comme Dakar, comme Conakry, comme Niamey, et que l'Iran, à défaut d'une présence militaire stratégique, a quand même une certaine influence au niveau des jeunes communautés chiites endogènes qui se développent dans nos régions. Donc je crois qu'il faudra véritablement observer dans les jours qui viennent comment la situation va évoluer et quel sera le retentissement. Et surtout, la population à dominante musulmane sera beaucoup à l'écoute des positions que prendront certaines organisations pan-islamiques, notamment l'organisation de la conférence islamique et tant d'autres. Donc la situation est à observer, mais le risque, bien que faible, demeure réel qu'il y ait des réactions anti-américaines dans certains pays.
Et qu'en est-il des autorités même des différents pays africains? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme réaction de leur part?
Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de réactions des autorités et des pays d'Afrique. Et je crois que cela est dû à une forme de prudence dans la réaction, sachant que les autorités en général préfèrent s'aligner sur des réactions collectives, en tout cas des prises de position au niveau des grandes organisations régionales ou internationales. Maintenant, il faudrait s'attendre à ce que, sous la pression de certaines opinions publiques et sous la pression de certaines populations qui pourraient manifester, que les autorités puissent prendre la parole pour soit rassurer ou dissuader d'une implication trop grande des différentes populations musulmanes par rapport à cette question iranienne. Le fait est que l'islam sunnite est majoritaire en Afrique de l'Ouest, par exemple, mais il y a des poches assez influentes, notamment avec le mouvement d'Ibrahim Zakzaki au Nigeria, des communautés chiites endogènes avec Soula Haïdara au Mali, mais aussi au Sénégal, dans la région sud, et en Côte d'Ivoire, en Guinée, notamment avec la présence du réseau Al-Mustapha, qui constitue un réseau d'enseignement chiite très proche de l'Iran, où les étudiants parfois peuvent suivre des cursus et aller compléter leur formation à Qom, notamment en Iran.
Voilà, l'universitaire sénégalais Bakary Samb, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les autorités malawites distribuent des alarmes aux personnes atteintes d'albinisme. Avec cette initiative, elles espèrent que les nouveaux gadgets permettront d'empêcher les attaques et les meurtres d'albinos. Mais ces alarmes n'ont qu'une portée limitée, ce qui suscite de nombreux doutes quant à leur efficacité. Lamek Massina s'est rendu sur place à Lilongwe et c'est un récit de Dili Diko.
Chipiliro Laston, un vendeur malawite albinos, a failli être enlevé en mars par trois individus prétendant d'être des policiers. Ces hommes affirmaient être chargés de fouiller des maisons de villageois à la recherche de parties de corps d'albinos utilisées en Afrique de l'Est pour la magie noire. Lorsque les individus n'ont pas été en mesure de produire des badges de police, il a compris que quelque chose clochait. Les villageois ont ensuite remis les trois criminels à la police.
J'ai réalisé que je pouvais être tué à n'importe quel moment. Ces gens sont venus de façon si inattendue. J'étais terrifié et j'ai compris que j'étais traqué. Depuis, je vis dans la peur.
Les albinos sont la cible de meurtres rituels perpétrés par des gens qui croient que certaines parties de leur corps apportent chance, pouvoir et richesse. La police malawite rapporte qu'au moins 25 albinos ont été tués depuis 2014 et que leurs tombes sont souvent profanées, non pas pour des objets de valeur, mais pour leur corps. Cette année, les autorités du Malawi ont réagi aux demandes du public en distribuant des alarmes aux quelques 10 000 albinos du pays.
En tant que gouvernement, nous essayons de créer un environnement sûr pour les personnes atteintes d'albinisme. C'est pourquoi nous leur distribuons ces gadgets afin qu'elles se protègent et vivent en sécurité dans leur communauté.
Initialement, les albinos malawites avaient refusé ces alarmes parce que les autorités les présentaient comme étant des cadeaux du président Peter Mushaira. L'alarme s'actionne en retirant la goupille de sécurité, mais elle ne peut être entendue que dans un rayon d'environ 100 mètres.
Vous pouvez convenir avec moi que ce bruit n'est pas assez puissant pour alerter les gens. Et en plus, ce n'est pas dans nos habitudes au Malawi de courir pour aller voir ce qui se passe lorsque nous entendons ce type de bruit.
La police malawite et les dirigeants locaux sensibilisent le public afin qu'ils réagissent aux alarmes. Pour sa part, Chipiliro dit qu'il se sent un peu plus en sécurité avec l'alarme, mais sa portée limitée le dissuade de voyager pour gagner de l'argent. Il a donc du mal à joindre les deux bouts.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir des 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le basket en fauteuil roulant est de plus en plus populaire au Soudan du Sud, donnant de l'espoir aux athlètes handicapés. Certains ont perdu leurs jambes à cause de munitions non explosées dans ce pays miné par des décennies de conflits. Les joueurs de basket professionnels américains en fauteuil roulant, y compris l'américano-soudanais Malat Wei, ont aidé en décembre 80 joueurs sud-soudanais à participer à un programme d'entraînement et à un tournoi. Le reportage à Juba de Sheila Pony avec le récit de Timothée Donangmaï.
Malat Wei a perdu l'usage des jambes à cause de la polio au Soudan du Sud quand il avait 3 ans. Quand il avait 12 ans, après plusieurs années dans un camp de réfugiés, la famille de Wei a déménagé aux États-Unis. Il a réussi à intégrer l'équipe de basket en fauteuil roulant de l'Université de l'Arizona. En décembre, il était de retour au Soudan du Sud en tant que modèle pour d'autres athlètes handicapés.
J'ai vécu la même situation que ces athlètes. Alors, pour moi, c'est encourageant qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un qui se soucie vraiment de nous.
La formation en est à sa 3e année. Elle a été organisée par le Comité international de la Croix-Rouge et l'Association sud-soudanaise de basket en fauteuil roulant. Pour la première fois, 15 femmes ont pris part à la formation, y compris Anna Doki Gabriel.
En tant que personne en fauteuil roulant, le basket m'a fait vraiment sentir que nous pouvons faire ce que les personnes sans handicap font.
Les conflits et la pauvreté sont à l'origine de la marginalisation de plus de 1,2 million de personnes handicapées. Mais les organisations comme le CICR essaient de combattre les préjugés sur les personnes handicapées. Jess Max est conseiller du CICR.
Une fois qu'ils commencent à avoir cette confiance en eux-mêmes et qu'ils commencent à réaliser que peut-être ce que l'on a toujours dit sur leur place dans la société n'est pas vrai, donc ils commencent à attendre plus d'eux-mêmes et de la société qui les entoure.
Grâce à cette formation, dit Wei, des athlètes de différentes tribus rivales se retrouvent pour s'entraîner et jouer comme un seul pays et oublier les conflits.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Fin de cette édition, mise en onde par Georges Léonard Stagnot à la console d'Anne Crafton, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
les infos.